Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Intervention de Jean-François Coulon, journaliste et reporter, sur Napoléon à Sainte-Hélène.
Alors c'est difficile de passer après tous ces érudits sur l'héritage de Napoléon. Je ne suis pas historien, je ne suis que journaliste, vous me pardonnerez, et écrivain. Mais j'ai une passion pour Napoléon. Et j'ai écrit 16 films sur cette période et j'en ai tourné 6. C'est ce qui m'a amené à Sainte-Hélène. Et Sainte-Hélène, dans l'héritage de Napoléon, c'est quelque chose, je crois, d'assez important, parce que c'est là où Napoléon va sculpter sa légende. C'est là où il va revenir sur ses victoires, sur ses erreurs. C'est là aussi où il va dicter à ses compagnons d'infortune, en tout cas ceux qui l'ont accompagné, j'allais dire toute une série de recommandations que les politiques d'aujourd'hui devraient lire pour s'en inspirer. Alors, Sainte-Hélène, oui, on a sorti, il faut que je le dise, quand même Bertrand Ortoli, c'est grâce à lui que je suis là, ou à cause de lui, vous me direz. On a sorti avec David Chantran un livre aux éditions du Rocher qui s'appelle « Napoléon, les derniers témoins racontent ». Qu'est-ce qu'on a fait? On a relu toutes les mémoires de tous les gens qui étaient avec l'empereur à Sainte-Hélène, à la fois des militaires, à la fois des domestiques, à la fois des médecins, y compris celle de ce charlatan du Sonlo. Et on a fait une anthologie, et on découvre à travers, finalement, on a lu des milliers de pages, on a choisi, et Napoléon apparaît, comme je crois, il est rarement apparu, en tout cas c'est ce que Jean-Paul Kaufmann a la gentillesse de dire dans sa préface, comme un type tout à fait au-dessus des autres, ça on le sait, mais surtout profondément humain. Et il reconnaît... Dans cette période, il y passe quand même presque 5 ans, je vous l'ai dit, il a ses erreurs. Et ça, c'est assez fascinant. Alors, Sainte-Hélène, c'est quoi? Sainte-Hélène, vous savez où c'est? C'est une petite île, c'est une chure de mouches au milieu de l'océan Atlantique, dans l'Atlantique Sud, à peu près à 3000 km des côtes africaines et à 3400 km des côtes du Brésil. Et j'y suis allé il y a une vingtaine d'années. Ce qui était très intéressant, on y allait en bateau, 10 jours de mer, de Tenerife, parce que le bateau descendait de Cardiff. C'est un bateau anglais, bien sûr. C'était la seule façon d'aller à Sainte-Hélène à l'époque. Maintenant, il y a un aéroport. On y reviendra, c'est autre chose. Et on descendait toute la côte africaine. On arrivait à Sainte-Hélène et on avait exactement la vue qu'en octobre 1815, Napoléon a eue. C'est-à-dire que Napoléon est monté sur le pont du bateau, il a regardé avec sa lorgnette et il a dit à Lasca, c'est pas un joli séjour. J'aurais dû rester en Égypte, je serais à présent empereur de tout l'Orient. Il faut imaginer, le bateau arrive toujours au petit jour, et c'est une bastille de basalte noir. C'est grand comme à peu près Paris intramuros, pour vous donner une idée. C'est vraiment une bastille, ces murailles sont énormes, Sainte-Hélène, il n'y a qu'une plage, une toute petite plage. Il n'y a pas de port, bien entendu, donc le bateau s'arrête dans la rade, on vient vous chercher avec une espèce de barcasse, et puis lorsque vous arrivez sur la jetée, je me souviens, il y avait des portiques avec des cordes. Je me suis dit, est-ce qu'il pend encore des gens ici? Pas du tout, il faut sauter à terre comme ça. Et la ville de Jamestown, c'est une ville qui est entre deux falaises, qui part en biais comme ça, et vous avez vraiment la vue, rien n'a changé, l'île est anglaise, il y a à peu près 5000 personnes qui y habitent, et rien n'avait changé. C'est très perturbant d'arriver par bateau à Sainte-Hélène. Maintenant, on arrive en avion, je ne l'ai pas fait encore, les Anglais ont construit un aéroport sur les hauts plateaux, c'est pas gagné quand on décolle, parce que si la météo n'est pas bonne, vous avez 4 heures de vol, on vient en Afrique du Sud, l'avion n'a pas assez de carburant pour revenir à terre. Donc il faut faire quand même un petit peu attention. Bref, Napoléon débarque là en octobre 1815, et il va s'installer au Briard. Alors les Briards, c'est une petite maison qui a été faite par M. Balcombe pour donner des goûters à ses enfants. M. Balcombe, c'est le patron de la Compagnie des Indes, à Sainte-Hélène. Sainte-Hélène n'appartient pas aux Anglais. À l'époque, en 1815, elle appartient à la Compagnie des Indes. Et c'est un endroit capital, puisque tous les bateaux qui descendent d'Europe ou qui remontent d'Asie s'arrêtent à Sainte-Hélène. On appelle Sainte-Hélène l'auberge de l'océan. Pourquoi? parce qu'il faut faire de l'eau, il faut des vivres, etc. Alors, évidemment, ça a été terminé quand on a ouvert le canal de Suez, parce que maintenant, on ne passe plus par là. Et sur Sainte-Hélène, ça a été, la vie de Sainte-Hélène a été intéressante jusque dans les années 60, puisque vous avez à Sainte-Hélène une plante qui s'appelle le flax. Le flax, c'est grand comme deux mains de largeur, ça fait 2,50 m de haut, et avec ça, on faisait le meilleur cordage qui soit. Mais dans les années 60, le nylon est arrivé, terminé. Sainte-Hélène ne sert plus à rien. Les Russes, quoi, les Soviétiques, ont essayé de le racheter à la couronne britannique qui voulait en faire une base de sous-marins. Pas la peine de vous dire ce qu'ont répondu les Anglais. Bref, Napoléon s'installe donc au Briard. Ah oui, c'est ça que je voulais dire aussi avant l'installation. Longwood, là où Napoléon donc a passé 5 ans, est une propriété française. Et nous sommes en France à Longwood. C'est la seule façon d'avoir un pied en Angleterre et un pied en France, c'est de se mettre sur le portail. Vous avez un pied en Angleterre, un pied en France. Pourquoi ? C'est Napoléon III qui a racheté Longwood pour 350 000 francs or en 1858, si mes souvenirs sont exacts, à la Reine Victoria. Longwood et la vallée de la tombe. La maison des Briards a été donnée à la France par les descendants des Balcombes. Alors, quand Napoléon s'installe au Briard, c'est parce que Longwood n'est pas prêt. Il faut que les charpentiers de la marine anglaise rendent la chose à peu près potable. Donc aujourd'hui, nous avons un consul de France, Michel Martineau, qui a pris la succession de son père. C'est le seul consul de France que nous ayons qui soit nommé à vie. C'est un décret qui a été signé à l'époque par Chirac, et Jospin était Premier ministre. Pourquoi ? Parce que le consul de France passe 3 ans en poste, je crois, parce que personne ne veut aller à Sainte-Hélène. Soyons très clairs. Donc Sainte-Hélène, 5000 personnes aujourd'hui, la maison du gouverneur, il y a toujours un gouverneur britannique, et Sainte-Hélène, aujourd'hui, si vous avez la chance d'y aller, vous verrez que la maison a été restaurée, ça a mis 30 ans, elle est exactement dans l'état de 1821. C'est-à-dire avec les jardins dessinés par Napoléon, c'était sa dernière bataille, entre guillemets, il a dirigé ça comme il dirigeait une bataille. On a retrouvé, Michel Martineau a fait un travail absolument incroyable, parce qu'il a retrouvé les meubles qui avaient été dispersés après la mort de l'empereur, le 5 mai 1821, à 6h moins 10, petite parenthèse, dans un musée napoléonien, dès qu'il y a une pendule, elle est sur 6h moins 10, c'est l'heure de la mort de l'empereur. Donc il a réussi à reconstituer exactement l'endroit avec les meubles où vivait Napoléon. Quand vous rentrez dans cette salle, il y a une grande salle au départ avec un billard, c'est le billard sur lequel il est allé ses cartes. Vous avez 2 map-mondes, notamment une map-monde avec Sainte-Hélène qui a été grattée. C'est Napoléon qui l'a grattée avec son doigt. Parce que le jeune Bonaparte à Brienne, à Sainte-Hélène, on a trouvé ça dans ses cahiers, mettait 2 points, petite île. Il ne savait pas qu'il allait y finir sa vie. Donc, le travail qui a été fait par notre consul de France, qui a pris la succession de son père est mort il y a longtemps, et son père était un historien formidable, la maison a été vraiment remise. Encore une fois, comme en 1821. Il reste à refaire la bibliothèque de l'empereur, mais Michel Martineau ne savait pas comment la faire, parce qu'on n'avait pas de papier, pas de traces, évidemment les photos n'existaient pas. Et grâce à Jacques Jourquin, un historien formidable, dans les papiers d'Ali, qui était le garde du corps, le mamelouk à Sainte-Hélène, il était aussi mamelouk que moi je suis pape, hein, son vrai nom c'était Saint-Denis, hein, mais enfin c'était autour de l'empereur, chacun avait des rôles bien, bien définis. On a retrouvé la bibliothèque, il avait tout écrit. Donc on est en train de refaire, Michel Martineau, exactement la bibliothèque de l'empereur. Donc il est vrai que lorsque vous arrivez à Sainte-Hélène, vous montez à Longwood et que vous êtes dans ce salon où tout s'est terminé, le lit est installé entre les 2 fenêtres où il a rendu son dernier souffle. On peut citer Chateaubriand, là, jamais l'âme humaine, voilà la citation, n'a jamais l'argile humaine, je m'en souviens plus, souffle. Voilà, merci. C'est quand même extrêmement, extrêmement émouvant. Alors, Sainte-Hélène, je me souviens quand j'y étais, c'était un endroit le plus difficile d'accès au monde. Pas de télévision à Sainte-Hélène. Donc, on y arrivait en bateau, ça je vous l'ai dit. On était dans un... Je ne sais pas si des gens se souviennent d'un feuilleton qui s'appelait Le Prisonnier, il y a une 20aine d'années. Bonjour, numéro 6. C'était Sainte-Hélène. C'était absolument incroyable. C'était à l'ère de ce feuilleton américain Dallas. Donc toutes les filles étaient habillées parce qu'elles avaient des vidéos comme Dallas. C'était absolument hallucinant. Et il y avait toujours la petite guerre entre les Français et le gouverneur pour des problèmes d'eau, pour des problèmes de machin, etc. Maintenant, ça s'est un peu calmé parce que les Saint-Héléniens, on dit ça, On a créé une fondation avec le ministère français des Affaires étrangères, les Saint-Héléniens et la Fondation Napoléon, pour entretenir au quotidien Longwood. Parce que notre consul de France est à la fois consul de France, il dépend donc des Affaires étrangères, et aussi conservateur des domaines, donc il dépend de la culture. Vous voyez un peu là, voilà. Bon, enfin, ça c'est pour Sainte-Hélène aujourd'hui. Alors, maintenant, quand Napoléon y arrive, en 1815, il s'installe donc au Briard, et c'est un peu la période heureuse de la captivité. Il y a cette fameuse Miss Betsy, qui est la fille du propriétaire de ce petit pavillon, le pavillon des Briards. Vous coupez cette scène en deux, c'est le pavillon des Briards. Alors, pour un type habitué au plus grand palais d'Europe, c'est tout de suite un peu à l'étroit. Et c'est Miss Betsy a aussi laissé des mémoires qu'elle a écrites tardivement, quand c'était une dame qui commençait à prendre de l'âge. Alors que les compagnons de captivité de Napoléon, c'est-à-dire Bertrand, Dommageal Bertrand, Montholon, Gourgaud, Lascaz, bien entendu, Marchand, son valet de chambre, qui est exécuteur testamentaire de l'empereur, il m'a rendu les services d'un ami, et qui l'a fait baron, ce qui avait été corroboré après par Napoléon III, tous ces gens-là ont tenu un journal au quotidien. Et comme tous ces gens-là étaient, en tout cas dans ce siècle, ils étaient quand même bien formés, ils savaient écrire, ils savaient regarder, ils ont absolument tout noté. Alors quand Napoléon arrive à Longwood, il faut lutter contre le mal qui va tuer l'empereur, c'est l'ennui. Pour un type qui a passé sa vie à cheval, a passé de capitale à l'autre, etc., rester 6 ans, machin, ça va être terrible. Donc, au début, on ne s'ennuie pas du tout, parce qu'il dicte les belles choses qu'il a fait avec ses soldats, comme il dit. Donc, il dicte ses mémoires. Alors, c'est vraiment, là aussi, c'est une organisation quasi-militaire. Bertrand, on lui dicte une bataille, il doit revenir le lendemain, il doit recopier dans la nuit, l'empereur corrige, quoi, et ça va durer pendant plusieurs mois. Et on a un petit phénomène de cour, parce que Lascaz, qui était émigré, qui a été radié de la liste d'émigrés, qui arrive, qui part avec l'empereur sur le Bellérophon, les autres en sont jaloux. Alors le plus jaloux de tous, Louis XVIII, ça a été Gourgaud. Gourgaud, Napoléon était obligé de s'en séparer et de le renvoyer, parce que c'est le mot de Jean Tullard qui dit à propos de ça, Napoléon dit, je cite Jean Tullard, Gourgaud m'aimait d'une telle façon que excusez-moi, c'est pas très, c'est un peu grossier, m'aimait d'une telle façon que j'ai cru qu'il allait m'enculer. C'est Tullard qui cite ça sur Gourgaud. Donc Gourgaud va disparaître, mais avant, Lascaz va partir, parce que Lascaz, il va partir renvoyé par Hudson Lowe, parce qu'arrive Hudson Lowe. Alors Hudson Lowe, tout le monde sait qui était cet affreux monsieur. Ça se passe tout de suite très mal avec Napoléon, parce que Hudson Lowe, comment dire, a pris, il prenait un malin plaisir, on le cite dans le livre, parce qu'il le cite lui-même dans ses mémoires, il prenait un malin plaisir à tout faire qui pouvait ennuyer, humilier Napoléon. Le type raconte ça dans ses mémoires, il raconte des exemples, etc. Quoi. Il est complètement une espèce de schizophrénie terrible. Et ça se passe très mal parce que Napoléon le considère comme un très piètre militaire, puisqu'il a toujours dirigé des Français qui avaient trahi. Donc, effectivement, pour l'empereur, ça va pas du tout passer. Alors, il va y avoir une guerre, parce que là, on peut vous en parler pendant des heures, mais c'est pas le but. Il va y avoir une guerre de tranchées entre Hudson Lowe et la petite colonie française, absolument incroyable. La première victime sera Lascaz, parce que Hudson Lowe voulait tout contrôler, les lettres que les Français envoyaient en Europe, etc. Et Lascaz se fait avoir par un domestique chinois, M. Bouton, chinois, qui lui propose d'écrire sur sa soierie, dans son costume, une lettre pour l'envoyer à Lady Holland en Angleterre. Et évidemment, ce brave domestique va donner ça au gouverneur. Alors évidemment, Lascaz est arrêté et renvoyé en Europe par un bateau. On lui confisque même ses papiers, parce que lui, il va faire quand même le mémorial de Sainte-Hélène en 23, qui va être le premier succès, un succès de librairie absolument considérable. Donc Lascaz est parti. Voilà. Donc après, Gourgaud va partir. Beaucoup vont partir. O'Meara, qui était le médecin irlandais de Napoléon, qui s'entendait très bien avec lui. Les mémoires d'O'Meara sont formidables aussi, je vous les conseille. Hudson Lowe va avoir sa tête aussi. Il va être renvoyé. 3 personnes vont arriver, 2 abbés, l'abbé Vignali et l'abbé envoyé par Madame Mère, et surtout Antomarchi, parce qu'à un moment, Napoléon n'a plus de médecin. C'est Antomarchi qui l'assistera jusqu'à la fin de ses jours. Il assistera mal parce qu'Antomarchi préférait aller courir le Guilledou que de s'occuper de son auguste patient. Donc ça se passe pas bien, pas bien avec lui, mais c'est lui qui va l'autopsier, assisté après de deux médecins anglais. Donc il y a cette première période, on va dire, où Napoléon est tel que lui-même, il monte à cheval, etc. Il a besoin d'exercice, Napoléon. S'il ne fait pas d'exercice, ça ne fonctionne pas. Et puis, Hudson-Lowe va finir par le rattraper parce que, oui, il peut faire de l'exercice, mais avec des officiers anglais qui ont du col au basque. Donc, pour lui, c'est absolument impossible. Donc, il ne monte plus à cheval. Et puis après, il sort de moins en moins. Donc, c'est une espèce de guérilla comme ça. Bon, la deuxième partie, pour aller vite, parce qu'on ne va pas... sinon, je peux vous en parler toute la nuit de Sainte-Hélène, mais... la partie déprime, la partie de la maladie qui commence à monter. Il est mort d'un cancer de l'estomac. Arrêtons les trucs d'arsenic, de machin empoisonné. Tout ça, c'est de la foutaise. C'est une thèse, je fais une petite parenthèse, qui a été popularisée. Je crois que c'était un dentiste suédois dans les années 60. Et un type qui a gagné beaucoup d'argent, qui s'appelait Ben Weider, en vendant des appareils de musculation, a payé pour populariser cette thèse. Les historiens français... ont démontré que c'était absolument faux, parce qu'on avait de l'arsenic dans ses cheveux, etc. Enfin bref. Donc, il y a aussi, oui, on a aussi raconté qu'on l'avait empoisonné, qu'un Français l'avait empoisonné en mettant dans le vin qui venait de vin de Constance, en mettant de l'arsenic petit à petit. Enfin, tout ça, c'est de la foutaise. Il est mort, comme son père, d'un cancer de l'estomac. Point final. Et surtout mort, je vous le disais tout à l'heure, d'ennui. Donc, et puis, ça va mieux au début des 1820, où il construit ses jardins, quoi, il dirige ça vraiment comme à la manœuvre. Et puis après, bon, la maladie reprend le dessus, il n'a plus de médecin. La médecine était en fait aussi quand même assez abrupte à l'époque. Les doses de calmonelle qu'on lui a infligées à la fin de sa vie ont hâté sa fin, quoi. Mais, encore une fois, lisez ses mémoires, parce que... c'est absolument formidable. Et Napoléon, il revient sur tous les événements majeurs de sa vie, y compris sur Chateaubriand, vous en avez parlé. Et je disais, c'est un bréviaire politique. Sur, par exemple, la monnaie, il disait que les Autrichiens mettent ce qu'ils veulent sur leur face de monnaie, la tête qu'ils veulent, je m'en fiche. Mais je veux que c'est le même poids d'or, le même poids d'argent que la monnaie française. C'était la monnaie unique avant l'heure. Donc il revient aussi sur ses erreurs, sur l'Espagne est une erreur, ça, on pourrait en parler longtemps. L'esclavage. Alors, en défendant le livre avec David, on a fait beaucoup de télévision, etc. Les deux questions qui sont revenues, c'était Napoléon esclavagiste, l'esclavage, et Napoléon n'aime pas les femmes, il a brimé les femmes, etc. Face à la mitraille de l'ignorance, je veux dire que parfois, ça a été un peu compliqué de ne pas sortir de ses gonds. Donc, sur l'esclavage qui est rétabli, il rétablit ça pour des raisons économiques, parce que les colonies crèvent de faim à cause des Anglais. Il y a une partie intéressante, il rencontre un esclave justement ombria qui s'appelle Toby, et il veut le libérer. Toby ne veut pas être libéré. Donc vous verrez, c'est des pages absolument passionnantes. Et il revient, et sur ses succès, et sur tout. C'est un bréviaire. Là, maintenant, sur l'héritage, et je finirai par ça, l'héritage napoléonien, c'est ce qu'on racontait, les Français ont peut-être oublié qu'ils vivent sous Napoléon. Alors, on peut faire la liste, elle va être longue, hein. Les préfets, le code civil bien entendu qui a été toiletté d'à peine 25%, c'est donc quand même que les piliers étaient solides, les préfets, la création des lycées, les arbres que Napoléon fait planter dans le Midi pour que les voyageurs aient de Londres, la numérotation des rues, le code du commerce, bref, on peut multiplier les exemples. Les Français ne savent pas, mais ils vivent sous Napoléon. Tout ça a été créé par cette âme et cette intelligence ô combien supérieure en 15 ans de pouvoir. Et en 15 ans de pouvoir, vous pouvez chercher dans l'histoire, jamais quelqu'un n'a fait autant. Et, première phrase de son testament, je veux que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé. Tout est dit. Bon.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.